Chapitre 25. Juste avant. Et au premier battement de ses paupières, je l'ai connue. C'était elle, l'inattendue et l'attendue. Albert Cohen. Manhattan, 7h15 du matin. Trois quarts d'heure avant la première rencontre entre Alice et Gabriel. Des notes de jazz pétillaient dans l'habitacle du taxi. Il ne fallut que quelques secondes à Gabriel pour reconnaître l'enregistrement mythique. Bill Evans, interprétant All of You de Cole Porter au Village Vanguard en 1961. Bien qu'il soit incapable de jouer du moindre instrument, le psychiatre adorait le jazz et écumait les salles de concert, tour à tour curieux d'un nouveau son ou cherchant au contraire à retrouver les émotions qu'il avait éprouvées lorsque, étudiant, il avait découvert cette musique dans les clubs de Chicago. À cause des travaux sur Harrison, le taxi louvoya pour rejoindre Hudson Street. À l'arrière de la voiture, Gabriel poursuivait la lecture du dossier d'Alice Schaeffer sur l'écran de son téléphone portable. Rédigé par un psychologue de la clinique, la dernière partie du document consistait en une longue notice biographique complétée par des articles tirés de quotidiens et d'hebdomadaires français dont on avait réalisé une traduction sommaire. Tous les papiers évoquaient le tueur en série Eric Vaughan, qui avait terrorisé la capitale française au cours de l'année 2011. Une affaire dont Gabriel n'avait jamais entendu parler. La taille de l'écran du smartphone et les cahotements de la voiture ne facilitaient pas la lecture. En parcourant les premières coupures de presse, Gabriel pensa qu'il s'agissait d'une enquête sur laquelle Alice avait travaillé, et il eut l'impression d'être dans l'un de ces thrillers qu'il lui arrivait d'engloutir lorsqu'il prenait le train ou l'avion. Puis, il tomba sur les quatre pages de Paris Match qui évoquaient le drame d'Alice. La jeune flic avait bien traqué le tueur, mais elle était aussi l'une de ses victimes. Ce qu'il lut lui fit froid dans le dos. Vaughan l'avait pour ainsi dire éventré, transperçant son bébé de plusieurs coups de lame et l'abandonnant mourante dans une mare de sang. Comble du malheur, son mari avait eu un accident de voiture fatal en la rejoignant à l'hôpital. Sous le choc, Gabriel eut la nausée. Pendant un moment, il crut qu'il allait vomir les deux tasses de café qu'il avait dans le ventre. Tandis que la voiture filait sur la 8e avenue, il resta plusieurs minutes, immobile, le nez collé à la fenêtre. Comment le destin pouvait-il s'acharner à ce point sur cette femme? Après ce qu'elle avait enduré, comment pouvait-on encore lui infliger une maladie comme l'Alzheimer alors qu'elle n'avait que 38 ans? Le jour commençait à se lever et les premiers rayons du soleil perçaient la forêt de gratte-ciel. Le taxi remonta Central Park West et déposa Gabriel au croisement de la 72e rue, juste au niveau de l'entrée ouest du parc. Le psychiatre tendit un billet au chauffeur et claqua la portière. L'air était frais, mais le ciel, pur et sans nuages, laissait espérer une belle journée d'automne. Il regarda autour de lui. La circulation commençait à être dense. Sur l'avenue, les chariots de bretzel et de hot-dog étaient déjà en place. En face du Dakota, un vendeur à la sauvette installait sur le trottoir ses affiches, ses t-shirts et ses gadgets à l'effigie de John Lennon. Gabriel pénétra dans le parc, où régnait une ambiance champêtre. Il dépassa le jardin en triangle des Strawberry Fields et descendit le chemin qui longeait le plan d'eau jusqu'au dôme en granit de la fontaine de Cherry Hill. La lumière était belle, l'air vif et sec, et l'endroit déjà très animé. Joggers, skaters, cyclistes, promeneurs de chiens, se croisaient dans une sorte de ballet improvisé mais harmonieux. Gabriel sentit son téléphone vibrer dans la poche de son imper. Un SMS de Thomas contenant une capture d'écran, un plan qui indiquait la localisation précise d'Alice Schaeffer. Aux dernières nouvelles, la jeune femme était toujours quelque part de l'autre côté du pont qui traversait le lac. Gabriel se repéra facilement. Dans son dos, les silhouettes des tours jumelles du San Remo. Plus loin devant lui, la Terrace et la Bethesda Fountain. Puis, à sa gauche, la passerelle en fonte du Bow Bridge, ornée de délicates arabesques. Il s'engagea sur le long pont couleur crème qui enjambait l'un des bras de l'étang et s'enfonça dans le Ramble. Le psychiatre n'avait jamais mis les pieds dans la partie la plus sauvage de Central Park. Peu à peu, les bosquets et les arbustes laissèrent la place à une véritable forêt. Des ormes, des chênes, un tapis de mousse et de feuilles séchées, de hauts rochers. Il avançait en gardant les yeux rivés sur son téléphone pour ne pas s'égarer. Il avait peine à croire qu'une véritable forêt puisse s'étendre à quelques centaines de mètres seulement d'une zone aussi fréquentée. Plus la végétation se densifiait, plus la rumeur de la ville se dissipait, jusqu'à disparaître. Bientôt, il n'y eut que les piaillements des oiseaux et le bruissement des feuillages. Gabriel souffla dans ses mains pour les réchauffer et regarda une nouvelle fois son écran. Il pensait s'être perdu lorsqu'il arriva dans une clairière sauvage. C'était un endroit hors du temps, préservé de tout et protégé par le dôme doré que formait le feuillage d'un orme gigantesque. La lumière avait quelque chose d'irréel, comme si des papillons aux ailes de lumière virevoltaient dans le ciel. Balayés par un vent léger, des feuilles rousses voltigeaient dans l'air. Un parfum de terre mouillée et de feuilles en décomposition flottait dans l'atmosphère. Au centre de la clairière, une femme dormait, allongée sur un banc. Gabriel s'approcha prudemment. C'était bien Alice Schaeffer, recroquevillée en chien de fusil, protégée par un blouson de cuir, les jambes serrées dans un jean. Taché d'hémoglobine coagulée, les pans d'un chemisier dépassaient du blouson. Gabriel s'alarma, il crut qu'elle s'était blessée. Mais, après avoir examiné le vêtement, il devina que ce sang devait être celui de Caleb Dunn, le gardien de la clinique. Il se pencha jusqu'à frôler les cheveux de la jeune Française, écouta le bruit de sa respiration et resta un instant à regarder les mille nuances des reflets d'or de son chignon. Son visage, fragile et diaphane, ses lèvres sèches, roses pâles, d'où sortait un souffle chaud. Un trouble inattendu monta en lui, puis un feu déstabilisant s'alluma dans tout son être. La fragilité de cette femme, la solitude qui émanait de ce corps abandonné résonna en lui comme un douloureux écho. Il n'avait fallu que 2 secondes, un simple regard posé sur elle, pour que sonnent les 3 coups du destin et que, happé par une force irrationnelle, il sache qu'il allait tout faire pour aider Alice Schaeffer. Le temps était compté. Le plus délicatement possible, il fouilla les poches du blouson de la jeune femme, trouva son portefeuille, une paire de menottes, l'arme de Caleb Dunn. Il laissa le calibre à sa place, mais s'empara des menottes et du portefeuille. En examinant son contenu, il trouva la carte de flic de Schaeffer, une photo d'un homme blond aux cheveux bouclés et le cliché d'une échographie. Et maintenant ? Son cerveau phosphorait. Les bases d'un scénario insensé se mettaient en place dans son esprit. Une trame qui avait commencé à s'écrire toute seule dans le taxi en écoutant le pianiste de jazz à la radio, en lisant les articles sur Vaughn, le tueur en série, en repensant à ce que lui avait dit Thomas sur l'amnésie entérograde d'Alice et le déni de sa maladie. Chaque matin, à son réveil, sa mémoire se réinitialise de façon étrange. Elle ne sait pas qu'elle est malade et croit que la veille, elle faisait la fête sur les Champs-Élysées. À son tour, il vida ses poches pour faire l'inventaire de ce qu'il possédait. Son portefeuille, son portable, un stylo-bille laqué, son couteau suisse, le ticket de consigne de sa mallette qu'on lui avait remis lorsqu'il avait quitté l'hôtel. Il fallait qu'il improvise avec ça. Le temps se dilata. Les éléments du puzzle s'assemblaient dans sa tête à une vitesse stupéfiante. Comme frappé par la grâce, il sut en quelques secondes quel plan il devait suivre. Sur son téléphone, il vérifia le numéro du Greenwich Hotel. Et avec son stylo, il le recopia dans la paume d'Alice, en priant pour qu'elle ne se réveille pas. Puis il quitta quelques instants la clairière. À une 50aine de mètres plus au nord, il découvrit un petit étang, traversé d'un minuscule pont en bois rustique et entouré d'arbustes aux troncs courts et pleureurs. À en juger par les nombreuses mangeoires accrochées aux branches des arbres, l'endroit, calme et silencieux à cette heure, devait être une sorte de point d'observation créé par les ornithologues du parc. Gabriel retira son trench coat et déchira l'intérieur de la doublure pour en découper une lanière longue et fine qui pouvait faire penser à une bande de gaz de couleur claire. Il ôta sa veste, remonta la manche de sa chemise et, avec la lame de son couteau suisse, entreprit de graver sur son avant-bras une suite de 6 chiffres. 1, 4, 1, 1, 9, 7, correspondant à la combinaison des deux serrures de sa mallette. Il grimaça de douleur en sentant la lame s'enfoncer dans sa peau et entailler son épiderme. Si un garde forestier débarquait maintenant, il serait bien en peine de lui expliquer à quoi il jouait. Il enroula son bras ensanglanté avec le bandage artisanal pour s'en faire un pansement. Il rabaissa la manche de sa chemise, enfila sa veste et fit un baluchon avec son imperméable, dans lequel il glissa son portefeuille ainsi que celui d'Alice, son couteau suisse, sa montre et son stylo. Puis il se décida à appeler Thomas.
« Dis-moi que tu l'as retrouvée et qu'elle est vivante, »
supplia son ami. « Oui, elle s'est endormie sur un banc au milieu de la zone forestière. »
« Tu as essayé de la réveiller ?»«
Pas encore, mais il va falloir le faire avant que quelqu'un se pointe. »«
Tu as récupéré le flingue de Don ?»«
Pas pour l'instant. »«
Qu'est-ce que tu attends ?»«
Écoute, je veux bien essayer de la ramener à la clinique, mais en douceur, à ma façon et en suivant mes règles. »«
Comme tu voudras, »
concéda Krieg. Gabriel plissa les yeux et se gratta la tête. « À ton avis, qui va-t-elle chercher à contacter lorsqu'elle se réveillera ?»«
Sans doute son ami et collègue, Seymour Lombard. C'est lui qui lui a recommandé notre clinique et qui a payé son traitement. »«
Il faut que tu préviennes ce type. Quoi qu'elle puisse lui raconter, demande-lui de ne pas lui parler de sa maladie. Dis-lui de gagner du temps et de suivre les instructions qu'on lui donnera au fur et à mesure. »«
Tu es sûr de ton coup, là, parce que... »«
Je ne suis sûr de rien. » Mais si tu n'es pas content, viens la chercher toi-même. » À l'autre bout du fil, Krieg n'eut pour seule réponse qu'un profond soupir. Autre chose, Agatha est arrivée à New York ?
Elle m'a appelé il y a 2 minutes. Elle vient d'atterrir à JFK.
Dis-lui de venir immédiatement à Central Park. Au nord du Rumble, elle trouvera un petit étang entouré d'azalées. Près d'un pont rustique en rondin, il y a des arbres avec des mangeoires en bois pour les oiseaux. Dans la plus grande d'entre elles, je vais laisser toutes mes affaires, ainsi que les effets personnels de Schaeffer. Demande à Agatha de les récupérer avant que quelqu'un d'autre ne les trouve. Dis-lui aussi de se tenir prête à m'aider si je lui téléphone.
Je la préviens tout de suite,
assura Thomas Krieg.
On se rappelle quand?
Lorsque je le pourrai. Inutile d'essayer de me joindre sur mon portable, je vais devoir m'en débarrasser.
Bon. Bonne chance, vieux.
Une dernière question. Alice Schaeffer, elle a un mec?
Pas à ma connaissance.
Et ce type-là, Seymour?
J'ai cru comprendre qu'il était gay. Pourquoi tu me demandes ça?
Pour rien. Gabriel raccrocha et glissa le portable dans le ballot confectionné avec son imperméable, qu'il enfonça profondément dans la plus volumineuse mangeoire qu'il put trouver. Il regagna la clairière pour constater avec soulagement qu'Alice n'avait pas bougé. Là, il régla les derniers détails. Il sortit de sa poche le ticket de consigne de sa mallette et le fourra dans la poche briquet du jean d'Alice. Puis il se pencha sur l'avant-bras de la jeune femme et, très délicatement, fit jouer le bouton poussoir de la montre d'homme qu'elle portait au poignet, trafiquant la date pour la régler exactement 1 semaine plus tôt. Sur le cadran de la Patek, le calendrier perpétuel indiquait désormais mardi 8 octobre au lieu du 15. Enfin, il passa l'un des bracelets des menottes au poignet droit d'Alice et referma sur son poignet gauche l'autre mâchoire d'acier. À présent, ils étaient inséparables, enchaînés pour le meilleur et pour le pire. Il jeta la clé le plus loin possible dans les broussailles. Puis il se coucha à son tour sur le banc, fermant les yeux, se laissant doucement tomber contre le flanc de la jeune femme. Le poids du corps masculin sembla tirer Alice de son sommeil. Il était 8 heures du matin. L'aventure pouvait commencer.